Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission Il était une fois en Cornouailles sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouaille bretonne. Nous allons aujourd'hui à la rencontre du roi Marc, célèbre monarque de la geste arthurienne, oncle du chevalier Tristan, mais surtout affublé d'une particularité, il avait deux oreilles de cheval. Puis comme chaque semaine, je tenterai dans une seconde partie de relever le défi d'improviser une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous nous aura envoyés via notre page Facebook. Alors tout cela s'est passé il y a bien longtemps. Le roi Marc avait son palais à Poulmarc, près de Douarnenez. On dit aujourd'hui Plomarc, qui signifie le coin de Marc. C'est un site de toute beauté qui mérite votre visite. Marc, roi de Poulmarc, possédait un cheval comme on n'en avait encore jamais vu et comme on n'en verra jamais plus de semblable en ce bas monde. Il faisait des bonds si énormes à travers les landes, par-dessus les ménèzes et d'un bord à l'autre des vallées, que ses sabots ferrés d'argent laissaient toujours des empreintes dans le sol, même lorsque le granit affleurait. Il galopait aussi bien sur l'eau que sur la terre ferme, et les vagues de la mer en furie ne l'arrêtaient pas. C'est pourquoi le cheval de Marc, roi de Poulmarc, était appelé Morvar, ce qui, vous ne l'ignorez pas, signifie « cheval de mer » en breton. Et oui, vous l'aurez deviné, il s'agissait bien du cheval de feu le roi Gradelon dont vous avez déjà entendu parler, et que le roi Marc avait récupéré parce qu'il était le neveu du dit roi et son héritier. Toujours était-il que Marc, roi de Poulmarc, n'avait pas de plus grand plaisir que de courir le cerf et le sanglier en chevauchant son cheval Morvar. Un jour qu'il était parti avec toute sa cour chasser en forêt de Névès, près de Locronan, il aperçut une biche blanche, si belle qu'il n'avait pas souvenir d'en avoir jamais vu de pareille. Il s'élança à sa poursuite. La biche blanche bondissait et filait comme le vent. Morvar menait derrière elle un train d'enfer, sans parvenir pourtant à la rejoindre. L'escorte du roi ne put pas suivre, et sans s'en rendre vraiment compte, Marc, roi de Poulmarc, sur son cheval Morvar, se retrouvèrent bientôt seuls. Coincé dans son monde et derrière la jolie biche blanche, Marc galopa d'un bout à l'autre de la forêt de Névès. À cette époque, ce n'était pas le petit bois qu'il en reste aujourd'hui. Elle s'étendait de Quimper jusqu'au pied du Ménézom. La biche finit par atteindre le rivage de la baie de Douarnenez. Ne pouvant aller plus loin à cause de la pleine mer, elle fit un bond prodigieux jusqu'à un rocher isolé au milieu de l'eau. Et elle resta là, haletante, tournant vers le chasseur ses grands yeux de velours d'où s'écoula une larme. Le roi Marc, impitoyable, tira une flèche de son carquois, banda son arc et décocha son trait. Il se passa alors quelque chose d'étrange. Loin de se résigner, la biche allongea son cou vers la flèche qui fendait l'air, la saisit au vol entre ses dents et la relança vers le chasseur. La pointe de fer de la flèche vint frapper le cheval Morvar au beau milieu du poitrail. L'animal poussa un hennissement de douleur, se cabra, désarçonnant son cavalier, et s'effondra sur le sol, roulant et dévalant du haut de la falaise jusque dans les flots. Le roi Marc se relève, écumant de rage devant la perte de son cheval auquel il tenait tant. Il dégaine son poignard de chasse, descend jusque dans la mer, et, de l'eau jusqu'aux cuisses, s'avance vers la biche blanche. « Au secours, à l'assassin !» s'écrie une voix féminine railleuse. La biche a disparu, faisant place sur le rocher à une jeune fille ravissante, à la chevelure d'or couronnée d'algues, aux yeux verts limpides comme l'onde. Elle porte, suspendue à son cou par une chaîne rouillée, une grosse clé en or. Le roi comprend qu'il a affaire à Dahu, la princesse d'Is, qui hante encore les lieux de ses méfaits sous la forme d'une sirène. « Remercie-moi, roi Marc, lui dit-elle. Je t'ai laissé la vie alors que tu cherchais à prendre la mienne. Mais ta cruauté mérite quand même punition. Morvar, ton cheval, était un don de ma mère au roi Gradelon, mon père. Il est juste qu'il retourne à la mer et me revienne. puisque tu y tenais tant, tu porteras désormais sa crinière et ses oreilles. » Puis, avec un grand éclat de rire, Dahu plonge dans la mer et nage jusqu'au cadavre de l'étalon. Elle lui touche la tête et voilà qu'il ressuscite, se cabre et s'ébroue. Mais il n'a plus sa longue crinière noire flottant au vent et ses oreilles sont maintenant de ridicules oreilles humaines. La sirène l'enfourche en Amazone, puis avant de partir au galop sur la crête des vagues, elle crie avec un rire moqueur « Le roi Marc a des oreilles de cheval !» Et l'écho répète avec un rire moqueur « Le roi Marc a des oreilles de cheval! Le roi Marc a des oreilles de cheval !» Le pauvre souverain porta la main à sa tête. Il avait effectivement les oreilles poilues de son étalon noir et une longue crinière flottante qui lui pendait jusqu'au milieu du dos. Il mit son manteau sur sa tête et attendit la nuit pour rentrer, à pied, à Poulmarc. Il pénétra dans son palais par une porte dérobée. Pour qu'aucun de ses sujets ne puisse soupçonner sa nouvelle apparence, il cria à travers la porte de sa chambre l'ordre à ses valets de tendre au milieu de la salle du trône un rideau, un grand rideau rouge, que désormais personne ne devrait franchir sous peine de mort. Il se tiendrait derrière ce rideau pour écouter les requêtes ainsi que les rapports de ses courtisans et de ses officiers qui demeureraient, eux, de l'autre côté. Il ne pouvait cependant conserver son encombrante crinière qui lui tombait plus bas que la ceinture et continuait à s'allonger de jour en jour. Au bout de quelque temps, il envoya donc quérir un coiffeur qui lui ramena cet ornement insolite à de raisonnables proportions. Mais pour que ce coiffeur ne risquât pas d'aller raconter ce qu'il avait vu, le roi Marc lui coupa la tête dès qu'il eut donné le dernier coup de ciseau. Une semaine plus tard, l'écrin avait repoussé. Le roi fit venir alors un autre coiffeur et, le travail fait, l'oxyde comme le premier pour être assuré de son silence. Les semaines se succédèrent et la même scène régulièrement se répéta. Une bonne vingtaine de maîtres coiffeurs, garçons coiffeurs et apprentis coiffeurs passèrent ainsi de vie à trépas, tant et si bien qu'il n'en resta plus qu'un dans tout le royaume. Un seul coiffeur, Ionique, le propre coiffeur du roi, avant qu'il ne le congédie, suite aux événements que l'on sait. Marc l'aimait bien et la pensée de devoir lui couper le cou lui était très désagréable. Mais la crinière s'allongeait, descendait jusque par terre et commença à traîner dans la poussière. Son poids occasionnait au roi de violentes migraines. Il ne pouvait plus y tenir et finit par se résoudre à envoyer chercher Ionique. « Madoué !» s'écria celui-ci en découvrant le prodige capillaire dont était affublé son souverain et les oreilles noires et velues qui lui étaient poussées. « Quel méchant enchanteur a donc jeté un sort à votre majesté ? Que n'avez-vous fait appel à moi plus tôt ? Je possède des ciseaux enchantés qui m'ont été remis par un korrigan à qui j'avais rendu quelques services. Les cheveux, ou les crinières en l'occurrence, coupés avec ces ciseaux, ne repoussent jamais plus. « Ah, Ionique, tu es mon sauveur !» répondit le roi. « Coupe-moi vite cette tignasse avec tes ciseaux magiques. Votre majesté me promet-elle de me laisser la vie ?»« Mais bien sûr, cher Ionique, évidemment. Jure-moi seulement que tu ne confieras à personne, quoi qu'il arrive, que j'ai les oreilles de mon ancien cheval Morvar. » Ionique jura. Il coupa la crinière avec ses ciseaux enchantés et plus jamais la crinière ne repoussa. L'opinion publique, cependant, au royaume du roi Marc, était fort intriguée. Quel secret pouvait détenir le perruquier Ionique, qui était si grave qu'il avait coûté la vie à 20 autres perruquiers ? Qu'avait-il donc vu de l'autre côté du rideau rouge que nul n'était plus admis à franchir ? On lui demanda sans obtenir de réponse. Mais les coiffeurs, encore aujourd'hui, s'aiment bien parler. Aussi son secret oppressait-il Ionique de plus en plus. Les mots « Marc a des oreilles de cheval » lui démangeaient la langue. Il lui fallait faire un effort considérable, de plus en plus considérable, pour les retenir. S'il avait pu les crier ne serait-ce qu'une seule fois, il se serait senti délivré. Un jour, n'y tenant plus, Ionique s'enfuit jusqu'à la plage de la Palue et creusa dans le sable un trou profond mais pas plus large que sa tête. Il y enfouit son visage et hurla « Le roi Marc a des oreilles de cheval !» Puis il s'empressa de reboucher le trou avec du sable qu'il tassa soigneusement. Alors, il soupira d'aise. Il se sentit soulagé et put rentrer chez lui, le cœur léger. S'il s'était retourné, il aurait vu qu'un buisson de roseaux était poussé à l'endroit même où il avait enfoui son trop lourd secret. Un jour vint où Marc, roi de Poulmar, maria sa sœur, la douce Bleunwen, au roi du Léon Rivalen. Sa dignité exigeait bien sûr qu'à cette occasion il donnât des fêtes magnifiques, et il y convia tous les rois, reines, princes et princesses d'Armorique. Mais le problème pour lui était d'accueillir convenablement ses hôtes, sans leur montrer pour autant ses oreilles de cheval. Le brave Yonick lui entortilla la tête dans une écharpe et lui conseilla de raconter qu'il souffrait d'une otite, ce qui lui permettrait en outre de ne faire que de brèves apparitions aux cérémonies, et de se retirer très vite sous la tente qu'il s'était fait dresser près de l'aire à danser. On avait fait venir pour la noce les meilleurs musiciens de tout le pays breton. Malheureusement, ces talentueux artistes, assoiffés et affamés, comme tout sonneur qui se respecte, s'étaient précipités dès leur arrivée au palais, la veille du mariage, sur tout ce qui se pouvait manger ou boire et avaient eu l'infortune de se trouver à leur portée. Ils n'avaient pas respecté donc les petites provisions préparées comme tous les soirs sur les coins de table, dans la cheminée et à l'entrée de l'écurie, à l'intention des teuses, ces lutins familiers du château. Ces derniers, en arrivant vers minuit pour balayer la grande salle du palais et faire la toilette des chevaux, furent très dépités de ne trouver ni crêpes beurrées ni lard à se mettre sous la dent, non plus que la moindre goutte de lait ribaud, de cidre ou d'hydromel pour s'humecter le gosier. Aucune récompense donc pour le travail qu'ils venaient d'effectuer. Ils résolurent donc de se venger. Oh, sans méchanceté, car ils étaient seulement espiègles. Ils n'imaginèrent donc rien de mieux que de subtiliser les instruments de musique. On imagine l'affolement au réveil le lendemain, jour du mariage. On chercha dans tous les coins les instruments disparus, et lorsqu'on eut définitivement perdu tout espoir de remettre la main dessus, on courut de tous côtés à la recherche de quelque chose avec quoi on pourrait en confectionner de nouveau. C'est alors qu'un jeune garçon du pays, fils de pêcheur, signala qu'il avait remarqué sur la grève de la palue de magnifiques roseaux et bambous qui s'y prêteraient admirablement. On les cueillit et ils devinrent des flûtes de pan, des xylophones. Le maître des cérémonies, qui se rongeait d'impatience, donna immédiatement le signal de commencer les danses. Les musiciens soufflèrent dans leurs nouveaux instruments qui, au lieu de notes, clamèrent à l'unisson « Le roi Marc a des oreilles de cheval !» Tous les regards se tournèrent vers la tente où se cachait le roi. Au milieu des murmures et des rires étouffés, la jeune mariée s'avança bravement vers cette tente et demanda « Est-ce vrai, mon frère, que vous avez les oreilles d'un cheval ? Si c'est la vérité, mieux vaut nous le dire franchement. » On vit alors le roi, rouge de honte, sortir en courant, arracher l'écharpe qui dissimulait ses oreilles poilues et s'enfuir en criant « Oui, c'est vrai, j'ai les oreilles d'un cheval !» Il traversa la mer pour se réfugier chez son cousin, le roi Arthur, qui régnait en Grande-Bretagne. Arthur le reçut fort courtoisement et s'empressa d'envoyer quérir son bon conseiller en matière de magie, l'enchanteur Merlin évidemment, pour lui demander s'il n'existait pas un moyen de faire recouvrer au roi Marc ses oreilles humaines. Merlin se caressa longuement la barbe et lui répondit qu'il n'était pas en son pouvoir d'annuler un sortilège dont l'auteur était la princesse Dahu. Il pouvait toutefois en limiter les effets tant que Marc se trouverait dans l'île de Bretagne. Mais si jamais il lui prenait la fantaisie de retourner vers les plages d'Armorique, hantées par Dahu, ce filtre cesserait d'opérer et ses oreilles de cheval repousseraient. Marc se le tint pour dit. Après avoir bu le filtre concocté par Merlin et retrouvé tout aussitôt son apparence humaine, il décida de s'installer définitivement de l'autre côté de la Manche et obtint de son cousin Arthur la concession d'un petit royaume dans une péninsule où les paysages et les hommes étaient semblables à ceux de son pays natal. Logiquement, il baptisa cette région du même nom de son premier royaume, Cornouailles, mais avec un S à la fin car maintenant il y en avait plusieurs. Il fit construire son château non loin de la côte à Tintagel et gouverna avec sagesse et droiture. Le temps passa. Il eut un jour la douleur d'apprendre que son beau-frère, Rivalen, roi de Léon, avait été tué dans une rude guerre contre un certain duc Morgan. Le même jour, en l'apprenant, sa sœur Bleunouen en était morte de chagrin après avoir donné naissance à un fils. La naissance de cet enfant ayant été très triste, il avait été décidé de l'appeler Tristan. Le duc Morgan s'était emparé du pays de Léon. Quant au bébé, nul ne savait ce qu'il était devenu. Quelques 18 ans plus tard, un beau garçon échoua sur la côte des Cornouailles anglaises, après avoir été prisonnier des pirates et leur avoir faussé compagnie à la nage. Il avait de bonnes manières, il jouait de la harpe à ravir, et au combat, il valait bien 5 guerriers des plus valeureux. Le roi Marc l'accueillit en son palais, et sans savoir vraiment pourquoi, s'attacha à lui comme s'il eût été son propre fils. Le jeune homme ignorait sa propre identité, mais un jour, débarqua à Tintagel un noble seigneur de Petite-Bretagne nommé Talouche, qui allait de port en port à la recherche de son fils adoptif enlevé par des pirates. On lui dit qu'il y avait au palais un jouvenceau dont on ne savait rien, si ce n'est qu'il avait lui aussi échappé à des pirates. Talouche ne fit qu'un bond jusqu'au palais et prit Tristan dans ses bras. Quand leurs effusions furent terminées, il expliqua au roi Marc. « Celui-ci est Tristan de Léon, votre neveu, fils de votre sœur Bleunouen et de feu le roi Rivalen. Votre sœur me l'a confié encore au berceau pour que je le cache du duc Morgan. Je l'ai élevé comme mon fils et j'en ai fait un chevalier accompli. » Le roi Marc en eut une grande joie et associa dorénavant Tristan, son neveu, à toutes ses décisions. Un petit groupe de seigneurs jaloux s'en vint trouver le roi Marc pour lui dire qu'il était grand temps qu'il prît pour femme une fille de roi afin d'en avoir de légitimes héritiers. Marc, qui ne se souciait pas d'avoir d'autres héritiers que son beau neveu Tristan, voulut les berner. Avisant sur sa fenêtre un long cheveu blond de femme, fin comme la soie et brillant comme un rayon de soleil, que venait de laisser tomber une hirondelle qui tissait son nid, il s'en saisit et déclara qu'il épouserait celle à qui le cheveu appartenait. Les seigneurs comprirent qu'ils se moquaient d'eux et regardèrent haineusement Tristan qui se trouvait là près de lui. Tristan, lui, voulant prouver sa loyauté et montrer que le trône ne l'intéressait pas plus que ça, déclara qu'il trouverait cette femme. Il partit sur le champ. Sa quête dura de longs mois, mais il parvint à trouver celle à qui appartenait le cheveu. Une princesse irlandaise du nom d'Iseut. Tristan et Iseut, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Et oui, il ne résulta de cette histoire que de grands malheurs, mais on en parlera une autre fois. Après la mort tragique de son neveu et de sa future ex-épouse, la princesse Iseut, le roi Marc fut tellement ulcéré par le chagrin qu'il décida de retourner en Armorique dans son ancien royaume. Lorsqu'il débarqua, ses oreilles de cheval avaient repoussé, mais il n'y attachait plus d'importance. Il regagna son palais de Poulmarc, qui, depuis le temps qu'il l'avait quitté, était envahi par les ronces et à demi écroulé, et après s'être fait reconnaître, il le fit rebâtir et reprit le gouvernement de son pays. Mais il était aigri et se montrait tyrannique et dur. Quiconque osait regarder ses oreilles de cheval avait aussitôt la tête tranchée. Le temps passa, et Marc finit par comprendre qu'à force de trancher les têtes, il ne pourrait pas entrer au paradis après sa mort. Il décida alors de distribuer ses richesses aux pauvres, et il montra aussi une dévotion toute particulière à Sainte Marie, à qui il fit construire une jolie chapelle au pied du Ménéum. Et oui, c'est le lieu-dit Sainte Marie du Ménéum sur la route entre Châteaulin et Crozon. Quand un jour il mourut d'avoir bu trop d'hydromel, il arriva devant Saint-Pierre et les portes du paradis. Saint-Pierre parla de l'envoyer en enfer, mais Madame Marie protesta et prit sa défense. Son fidèle serviteur ne pouvait être damné. Saint-Pierre alla donc demander conseil à Dieu puis revint. « Soit, concéda le saint, ton roi Marc n'ira pas brûler en enfer, mais son âme devra demeurer dans sa tombe jusqu'à ce que cette tombe soit assez haute pour que, depuis son sommet, le roi Marc puisse voir le clocher de ta chapelle. » Or, le roi Marc avait été enterré sur le Ménésum, comme il convenait à sa dignité royale, mais sur le versant opposé à celui où s'élevait la chapelle Sainte-Marie. Entre le sanctuaire et sa tombe, il y avait donc un grand dôme de lande, à savoir le Ménésum lui-même. Alors la Sainte Vierge descendit sur terre, mit une grosse pierre dans les plis de sa robe et se dirigea vers la sépulture du roi Marc, à un moment où un mendiant passait par là. Le mendiant lui demanda l'aumône. Volontiers, répondit-elle, si auparavant vous faites comme moi, ramassez une de ces grosses pierres qui sont là dans la lande et venez la déposer sur la tombe où je vais poser la mienne. Le mendiant obéit et reçut en récompense une belle pièce d'or toute brillante. « Merci, ma bonne dame, dit-il, vous êtes aussi généreuse que l'était de son vivant le roi Marc, Dieu lui pardonne. » « Vous aimiez bien le roi Marc ?»« Ah, pour sûr, répondit le mendiant, il était compatissant aux gens de mon état. » Alors, brave homme, vous pouvez peut-être sauver son âme. La tombe où nous venons de déposer des pierres est la sienne. Quand vous passerez par là, ne manquez pas de refaire la même chose. Je vous le promets. Et dites à toutes les personnes de votre connaissance qui ont l'occasion de voyager à travers le Ménésome de faire de même. Quand le tas de pierres sera assez haut pour que l'âme du roi puisse contempler le clocher de la chapelle qui est de l'autre côté, cette âme montera au paradis. Bien des siècles ont passé depuis et les Bretons n'ont pas cessé, lorsqu'ils cheminent sur le versant nord du Ménésome, d'aller déposer leurs cailloux sur la tombe du roi Marc, qu'on appelle le Bernmain. Si vous passez un jour par là, vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de faire vous aussi ce geste de piété. Même si, pour avoir été vérifié sur place, on voit très bien le clocher de la chapelle Sainte-Marie depuis l'énorme tas de pierres. Voilà qui termine la première partie de notre émission. Nous allons faire une petite parenthèse musicale avec le titre de Clamavi de Profundis, The Lament for the Royalm, une chanson de circonstance il en est, puisqu'elle parle de royauté et de chevaux dans Le Seigneur des Anneaux.
Where now the horse and the rider? Where is the horn that was blowing? Where is the helm and the hauberk and the bright hair flowing? Where is the hand on the harp string and the red fire glowing? Where is the spring and the harvest and the tall corn growing?
They have passed like rain on the mountain,
like a wind in the meadow.
The days have gone down in the west, behind the hills,
into shadow.
Who shall gather the smoke of the dead wood burning, or behold the flowing years from the sea return?
Thank you.
the sea returning.
Merci d'être resté avec nous. Il va s'agir maintenant pour moi de relever le défi de créer une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association. Aujourd'hui, c'est Julie qui a été tirée au sort et Julie nous a proposé comme élément une gentille sorcière, l'océan, un morgan, la nature, un incendie et une inondation. Alors Maïwenn était une gentille sorcière qui habitait au bord de la mer. Elle ne s'était pas établie là par hasard, elle entretenait en effet de très bons rapports avec une famille de Morgans, ces lutins aquatiques qui vivaient sous l'océan entre l'île de Sein et Ouessan. Ils sortaient régulièrement des flots pour venir visiter Maïwenn ou lui demander de menus services que la gentille sorcière leur rendait volontiers. Comme toutes les gentilles sorcières, Maïwenn aimait la nature et connaissait les plantes qui faisaient du bien et guérissaient. Elle n'hésitait donc pas à exercer ses talents et à préparer des tisanes ou des huiles pour aider le petit peuple bleu sous la mer. Une fois, elle était même allée avec eux sous les eaux jusqu'au palais de nacre de leur roi qui était malade. Elle l'avait soigné et dès qu'il s'était remis, il avait déclaré à Maïwenn que lui et son peuple avaient désormais une dette envers elle. Ce n'était pas dans leurs habitudes d'entretenir ce genre de rapport avec les humains, mais ils feraient une exception pour elle. À compter de cet instant, tous les matins qui suivirent, Maïwenn trouva un poisson frais devant sa porte qui lui permettait de ne plus chercher à manger. Un jour, un corbeau entra par la fenêtre ouverte de Maïwenn. L'oiseau ne l'avait pas fait exprès et ne voulait pas être là. Il s'effraya, vola dans tous les sens, renversant au passage le trépied auquel était accroché le chaudron de Maïwenn. En tombant, le récipient envoya des étincelles par la fenêtre restée ouverte, qui mirent le feu à l'herbe sèche devant la cabane de la gentille sorcière. Les ajoncs voisins ne tardèrent pas à s'enflammer, puis ce fut autour des arbres. Maïwenn paniqua. Elle, qui aimait tant la nature, voilà que par sa faute, cette même nature partait en fumée. Quelle catastrophe! Derrière elle, une petite tête bleue sortit de l'eau, vit ce qui se passait, puis repartit sous les flots. Quelques minutes plus tard, alors que Maïwenn regardait le feu s'étendre sans pouvoir le quitter des yeux, elle entendit derrière des petits cris, comme ceux des dauphins. Elle se retourna et vit des morgans qui lui faisaient de grands signes pour qu'elle s'écarte. Derrière eux, loin sur la baie, une énorme vague se formait et arrivait vers la plage à toute allure. La gentille sorcière comprit ce qui allait se passer et se mit de côté juste à temps pour éviter le mini raz de marée qui vint recouvrir sa cabane et la partie de la forêt en train de brûler. En un instant, tout fut éteint. Ce fut au tour de Maïwenn d'aller se confondre en remerciements auprès des Morgans. Ceux-ci les acceptèrent et l'assurèrent de leur collaboration si d'autres problèmes de ce genre venaient à subvenir. Voilà Julie, je crois que tous vos éléments y sont. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Cela clôt notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles ». 26 minutes en terre des fées, rien que pour vous, avec la maison des contes et légendes de Cornouailles, alors Kenavo et Avéchal.